Le camp du dehors est plus vaste que celui du comte, ajouta Edan. J'espère que débusquer la belle personne ne sera pas trop compliqué.
Ne vous en faites pas, répliqua l'enfant dans un rire. Je vais demander l'aide de Margot. Lapis s'en chargera pour moi.
Je vous fais confiance, à toi et à l'oiseau. C'est un grand service que tu vas me rendre, mais il faut faire vite. Si nous retrouvons effectivement la dame au logis de tes maîtres, j'insisterai pour qu'il te cède un nouveau ruban.
Les yeux du garçonnet brillèrent de convoitise. Merci, Sire Edan. C'est comme si c'était fait.
Dans ce cas, cours. Tu n'as pas un instant à perdre.
Le joli valet esquissa une courbette et fila rejoindre ses compagnons. Quant au chevalier de Kéan, il se répandit en protestations d'amitié et de gratitude. « Quelle merveilleuse idée vous avez eue là! J'avais le cœur serré d'angoisse, et voici qu'il déborde de joie. Ah, Sire Edan, je suis à jamais votre obligé !»«
Ne vous réjouissez pas trop vite. Il faut encore que Milouin trouve la demoiselle. »
Le chevalier aux épines coula toutefois un sourire confiant à son voisin.
« Mais vous pouvez nourrir bon espoir. Le galopin est débrouillard, et c'est le plus honnête des trois pages. »
Vos amis aventureux ne seront-ils pas embarrassés par cette initiative?
Si la demoiselle est aussi avenante qu'en attestent vos sentiments, ils se montreront charmants avec elle. Ils raffolent du reste de ce genre d'intrigue.
Dans ce cas, puisse la douce dame mener notre petit émissaire jusqu'à la belle Éluise. Ah, quel idiot j'ai été! J'aurais dû moi aussi lui promettre une récompense. Un ruban est peu de chose pour l'immense service qu'il va me rendre.
« Détrompez-vous, » corrigea Edan. « Ces babioles sont précieuses aux yeux de ces enfants. Vous avez d'ailleurs pu voir qu'ils les accrochent à leur épaule. Ils en font collection, car c'est le prix offert pour les nombreux jeux du bois oiselé. Je n'en ai pas compris tous les tenants et aboutissants, mais le page qui aura le plus de rubans aura droit à une faveur exceptionnelle.
Dans ce cas, vous me rassurez. Le garçon y mettra vraiment du sien. » Ivorin se laissa aller un moment à un sourire un peu niais, grisé par ce rendez-vous impromptu avec la sublime Éluise. « Il faudra quand même que je fasse un présent digne de ce nom à ce petit Milouin, » reprit-il. « Il m'est déjà si cher que, sitôt rencontré, j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. N'est-ce pas étrange ?»«
Cela n'a rien d'étrange, » répondit le sire de Vaumacel. « Vous en avez déjà entendu parler, bien que ce fût de façon imprécise. »
« Oh, vraiment? Quand cela ?»«
Lorsque nous avons fait étape au château du Trèfle. Milouin est l'un des garçons disparus que je m'étais engagé à retrouver. »
Le chevalier de Kéan resta un instant bouche bée. « Je ne comprends pas, » finit-il par confesser. « Vos amis aventureux vous ont-ils aidé à les délivrer? À moins que... Serait-il possible qu'ils soient les ravisseurs ?»
Vous me permettrez de ne pas répondre à cette question.
Il en va de ma parole. Mais ne deviez-vous pas ramener ces enfants au seigneur du trèfle?
Pas exactement. Je me suis engagé à remonter jusqu'à eux, promesse que j'ai tenue, et à rapporter des nouvelles à Sir Rinfroid, ce que je ferai à la première occasion.
Ivorin avait plus que jamais l'air interloqué. C'est que... « Il me semble que ces enfants ont été enlevés, » reprit-il.
« Je ne le nierai point.
Enfin, ne deviez-vous point les libérer ?»«
Ne vous méprenez pas, Sire Ivorin. Rechercher est une chose, libérer en est une autre. »«
Mais qu'en est-il de leur famille? Ne serait-il point juste de les rendre à leurs parents ?» Le chevalier de Vaumacel esquissa un geste désinvolte.
« Je ne suis pas certain que ce serait un service à leur rendre, » répondit-il d'un air dégagé. « Ces enfants sont des manants, non des fils de la noblesse. Ils représentent surtout des bouches à nourrir pour leur foyer. Il arrive même qu'ils soient maltraités par leurs proches. Tenez, prenez Milouin, par exemple. Il n'avait plus que sa grand-mère, une vieille gueuse au cœur sec, qui n'appréciait chez le petit que les tâches qu'il pouvait abattre pour elle. » Serait-il resté dans leur finage, ces enfants n'avaient point d'avenir. Tandis qu'en servant les aventureux du bois oiselé, les voici placés,
et mieux placés que tout ce qu'on aurait pu rêver pour eux. Ont-ils l'air brimés? Ont-ils l'air affamés? Ont-ils l'air malheureux? Vous avez pu juger de l'élégance de leur mise et de leur bonne manière. Ils reçoivent la meilleure éducation qui soit. Réfléchissez. Les rendre à leurs parents serait peu judicieux. Comment croyez-vous qu'ils vivraient leur retour à la terre? Comment ces jolis pages seraient-ils accueillis dans les huttes de Rusto? Mais ils dépendent des seigneurs de leur terre natale. Ils sont nés vilains et non serfs. Ils s'appartiennent avant tout à eux-mêmes. S'ils n'ont pas envie de rentrer chez eux, de quel droit les y forcerais-je? Partagé entre sa reconnaissance pour le chevalier de Vaumacelle et son sens moral, Ivorin ne sut que répondre à cet argument. « De toute façon, nous gagnerons bientôt le camp des aventureux », ajouta tranquillement Edan. « Vous constaterez par vous-même la justesse de mes vues. » Comme le duc et sa cour avaient fait faux bond au banquet offert par le comte, la conversation roula rapidement sur la tactique à suivre par le camp du dedans au cours de la grande mêlée du lendemain. Dans ce tournoi s'affronteraient non seulement les chevaliers, mais aussi les écuyers et les sergents de leur maison. En tant qu'organisateur du tournoi, Anguzel de Kimark ne jugeait pas convenable de descendre sur la lice. Il était toutefois représenté par son fils Claudas, qui, en raison de sa personnalité affirmée, de son expérience et des forces sous ses ordres, prit facilement l'ascendant sur Blancandin. On débattit malgré tout longuement sur l'ordre dans lequel se déploierait le corps de bataille du dedans et sur les positions que chacun occuperait. Une quarantaine de chevaliers arboreraient les brins d'immortels. En comptant les écuyers et les sergents, un total de 400 hommes défendraient l'accès au château de Lindinas. Le camp du dehors leur opposerait un nombre égal de chevaliers. Mais le comte, comme son fils, pensait que le duc les ferait appuyer par une très grande force de gens de pied, qui excéderait celle du dedans. Aux yeux de tous, il était évident que le duc Ganelon serait d'autant plus avide de revanche qu'il avait peiné à reconnaître la défaite de son bâtard. Claudas ne se contenta pas de proclamer qu'il faudrait rendre coup pour coup. Il prédit aussi que l'adversaire manigancerait quelques feintes, sous prétexte qu'il avait été floué pendant les commensailles. Il faudrait donc se garder des fourberies et des traîtrises. On discuta longuement les postes assignés à chacun. Ivorin, impatient de gagner le camp des aventureux, était sur des charbons ardents, mais il lui était impossible de quitter la haute table avant que l'ordonnancement de bataille fût arrêté. Le commandement du centre fut attribué sans discussion à Claudas de Kimark. Héritier direct du comte, il se voyait ainsi chargé de la défense du château de Lindinas, qui, après tout, était un apanage de Kimark. Blancandin obtint de mener l'aile droite, avec l'appui des chevaliers de l'hôtel de la Duchesse. L'aile gauche fut laissée à Gérian de Froek, à la tête de Feudataire et de Vavasseur de la vallée de la Claye. Anguzel comme Blancandin entendait ainsi l'honorer pour la vaillance et la solidité dont il avait fait preuve au cours des commensailles. Ce qui prit le plus de temps fut de répartir les chevaliers qui épauleraient chacun de ses bannerets. Ivorin, qui rongeait son frein, accepta sans réfléchir l'invitation de Blancandin à se joindre à lui. Le ralliement du chevalier de Vaumacelle fut plus discuté. Blancandin le réclamait, puisqu'il cédait le sire de Froek à l'aile gauche, avait perdu le sire de Thèves et ignorait si le sire de Laudunet serait effectivement libéré. Mais Claudas de Kimark et le sire de Froek, qui se souvenaient de la défense de Mormarck, souhaitaient également s'attacher les services d'un combattant de cette qualité. Edan lui-même était indécis. Estimant que le conroi de Blancandin était affaibli et que le prince serait donc en danger, il était prêt à le rejoindre. Toutefois, il ne voulait pas se dérober au duel contre le connétable. Or, Anaro de Traval commanderait probablement le centre adverse, ce qui incitait le chevalier aux épines à se ranger dans le conroi de Claudas. En définitive, ce fut cette troupe qu'il rejoignit. En contrepartie, il proposa de s'entremettre pour que les deux aventureux qui défendraient le dedans se rangeassent sous la bannière de Blancandin. La charge du chevalier aux pies ayant été remarquée, le jeune Brommel accepta d'assez bon gré cet échange. En outre, la proposition donnait au sire de Vaumacel un prétexte commode pour regagner le camp des aventureux du bois Oiselet. Cependant, on controversa encore assez vivement au sujet d'une initiative de Claudas de Quimarc, qui voulait dissimuler une bande d'arbalétriers parmi ses gens de pied. La plupart des chevaliers se montrèrent vent debout contre pareille idée. Seules les armes blanches étaient courtoises. Recourir à des armes de trait serait déshonorant. Non sans mal, le fils du comte parvint à un compromis. Ces arbalétriers seraient tenus en réserve dans la cour du château. On ne les ferait donner que si une félonie était commise par le camp du dehors. L'après-midi tirait vers le soir, lorsque les discussions et le banquet s'achevèrent enfin. Les tables furent débarrassées pour libérer l'espace du pavillon comtal. Bon nombre de convives en profitèrent pour prendre l'air. Le chevalier de Kéan, qui ne se tenait plus d'impatience, entraîna le sire de Vaumacel vers le parc à chevaux. Il avait oublié sa peur d'une vengeance exercée par le grand bâtard sur la sublime Éluise, mais son cœur n'en balançait pas moins entre deux angoisses. La crainte que le petit Milouin n'eût pas pu délivrer son message s'effaçait parfois devant celle qu'il l'eût délivrée trop tôt, et que la belle Éluise, lasse d'attendre chez les aventureux du bois Oiselet, fut retournée au camp ducal avant qu'il ne l'eût rejointe. Eddan tenta en vain de calmer le bachelier. Il crut aussi remarquer une tache de sang sur le pourpoint du jeune preux, et lui recommanda de faire renouveler son pansement. Mais Ivorin ne voulut rien entendre. À peine les palefrois scellés, ils quittèrent le camp du dedans. Ils longèrent la berge de l'étang pour gagner le camp des aventureux. L'air de cette soirée de printemps les baignait dans une douceur délicieuse. La surface dormante des eaux reflétait le ciel avec des transparences de miroir. Dans ce firmament inversé, où scintillaient des étoiles précoces, des nuages teintés de rose dérivaient entre les herbes palustres. Au ras de l'onde, des libellules aux ailes irisées traçaient de mystérieuses figures. Cette quiétude vespérale se trouvait pourtant traversée par un chahut joyeux. Des aboiements excités, des bribes de chansons, des rires et des cris d'enfants provenaient du campement écarté. Les chevaliers de Kéan et de Vaumacel, suivis de leurs gens, n'étaient pas les seuls curieux à rendre visite aux aventureux du bois Oiselet. Des badauds venus des deux villes de toile que formaient les camps de Brommel et de Quimarc flânaient en direction des quelques tentes plantées par ces originaux sans attache. Trois petits pavillons circulaires encadrait un quatrième, beaucoup plus ample, dont le long toit se tendait de trois mâts fêtiers. Des oiseaux s'y livraient à une bruyante sarabande. Un volatile, semblable à un petit faucon, s'envolait de la pomme dorée qui sommait l'un des mâts et fondait sur la pie qui occupait le faîte voisin. L'agace prenait la fuite en jacassant pour chasser le jet occupant le troisième pinacle. Le gros passereau aux couleurs vives, tout en protestant à grands cris, se dérobait, virevoltait dans les airs et retournait se percher sur le premier mât. Les trois oiseaux s'invectivaient en leur caquet, jusqu'à ce que soudain, le jet fondit sur le fin rapace, et la ronde reprenait encore et encore. Ces voltiges criardes apportaient un contrepoint turbulent aux rumeurs de réjouissance. Car l'on s'amusait beaucoup dans le camp des aventureux. En face du grand pavillon, les baladins de la compagnie folle donnaient une nouvelle représentation de leur farce devant un public où se mêlaient enfants et visiteurs. Le nain édenté, minaudant dans les jupons de la maquerelle Cativeria, obtenait toujours un franc succès. Mais la pièce paraissait moins impertinente, peut-être parce que le rôle du grand-duc des Sacripants était joué par un batteleur un peu falot et non plus par l'elfe sémillant du matin. Qu'elle s'esclaffa avec un rire désagréablement forcé devant les pitreries de Cativeria et de la grande-duchesse Goguenard. Mais les chevaliers de Kéan et de Vaumacel se détournèrent rapidement de cette bouffonnerie qu'ils jugeaient vulgaire. À l'opposé du spectacle, leur attention était attirée par l'entrée grande ouverte du pavillon aux trois oiseaux. Dans la pénombre douce, tapis, coussins, tentures raffinées, y meublait un logis digne d'un roi. Au centre de ce palais de toile se dressait d'ailleurs une chaire vide, au bois de rose délicatement sculpté de motifs végétaux et aviaires, qui évoquait irrésistiblement un trône. Ivorin contempla ce siège un moment, troublé par sa beauté un peu étrange, par l'impression de pouvoir et de vacuité qu'il inspirait. Il sursauta quand il finit par réaliser qu'une ombre hiératique montait la garde à côté de ce fauteuil. La surprise fut d'autant plus forte que, sur le coup, le bachelier crut découvrir une sorte de géant, une statue bien plus haute que nature. Puis, ayant scié, il ne vit qu'une silhouette certes grande, mais aux proportions tout à fait humaines, et même un peu minces. L'inconnu était drapé dans une grande cape grise, lamée de motifs d'argent, dont le plissé s'était confondu avec les draperies du pavillon. Son visage était dissimulé par un masque d'oiseau rayé de plumes grises et blanches. Sous le bec, on devinait un menton fin et déterminé. « Voici le chevalier au coucou, » dit Edan, en saluant de la tête le mystérieux personnage. « S'il se conforme à nos plans de bataille, il combattra demain avec vous sous la bannière de Monseigneur Blancandin. » Ivorin s'inclina courtoisement devant ce futur frère d'armes. L'individu masqué conserva une immobilité de pierre. Et pourtant, bizarrement, le chevalier de Kéan eut l'impression que son salut lui était rendu. Derrière les orbites du masque, les yeux du personnage énigmatique s'étaient posés sur le bachelier. Ils accrochèrent un instant la lumière déclinante. Avec un frisson, Ivorin crut leur découvrir une couleur impossible. Ses prunelles étaient de la même eau améthyste que le crépuscule réfléchi par les temps. Mais la vision fut fugace. Elle n'était peut-être qu'un reflet ou un tour joué par son imagination. « Ne nous attardons pas, » chuchota Edan. « Ce seigneur est le plus titré et le plus ombrageux des aventureux du bois oiselé. Il serait fâcheux de l'importuner la veille du tournoi. » Des aboiements, des cris et des rires les attirèrent vers le pré situé derrière les tentes. Un petit groupe s'y livrait à un jeu frénétique. Quatre ou cinq pages et trois grands lévriers, à la robe neigeuse, essayaient d'attraper la balle colorée qu'avait confisquée un damoiseau aux cheveux d'or pâle. Mince et d'une grâce juvénile, vêtu d'un léger pourpoint, il avait tout l'air d'un écuyer récemment sorti de pagerie. Mais son visage était couvert par un masque bariolé à bec d'oiseau. « Voici le chevalier au jet, » précisa Edan. Le jeune homme tenait du bout des doigts son éteu, autour duquel un ruban coloré était noué. Les chiens sautaient pour lui happer la balle dans la main. Les enfants, quant à eux, se bousculaient pour lui agripper le bras, la taille ou les jambes. Sans jamais s'éloigner de plus de deux pas, le chevalier au jet se dérobait à tous ses assauts. Il esquivait avec une remarquable économie de mouvement les coups de dents, les ruées et les crocs en jambes. Il lui arrivait même de narguer ses adversaires en leur tendant la balle qu'il escamotait au dernier moment. Les pages se récriaient de frustration, le chargeaient de plus belle et se heurtaient aux lévriers qui bondissaient de plus en plus haut. Ce manège turbulent, à la fois taquin et un peu cruel, devenait presque une danse. L'aisance avec laquelle le blanc-bec masqué se jouait de la joyeuse bande sans jamais la fuir finissait, à la longue, par inspirer une forme de fascination. Malheureusement, déplora le sire de Vaumacel, ce vif argent a décidé de combattre dans le camp du dehors. Est-il aussi doué au jeu de lance qu'au jeu de balle? Je crains que oui. Ivorin ne dissimula pas qu'il était impressionné. Une recrue de choix pour le camp adverse, estima-t-il. S'il montre autant de force que d'adresse, il nous donnera du fil à retordre. N'est-il pas encore temps de le faire changer d'avis? Démarche fort malaisée, commenta soudain une tierce personne. C'est à nous que veut se mesurer le jet. Un peu saisis, les sires de Kéan et de Vaumacel se tournèrent vers l'individu qui venait de se glisser à leur côté. Il portait également un masque d'oiseau aux plumes d'un noir bleuté. Quoique débarrassé de l'armure, le chevalier au pie était encore sanglé dans son juste corps matelassé, un pourpoint du reste si joliment cintré et soutaché qu'il lui donnait presque une allure civile. Ivorin le reconnut au timbre de sa voix, sans quoi il aurait nourri de sérieux doutes. À le voir si proche et délivré du grand Arnois, le bachelier fut surpris de découvrir un Dameret presque fluet. Le premier étonnement passé, le bachelier s'inclina profondément. « Sire chevalier, dit-il, je respecte votre vœu d'anonymat, mais permettez-moi cependant de le regretter. J'aurais eu grande joie à connaître le nom du preux qui, en compagnie de Sir Edan, a sauvé nos armes ce matin. » L'inconnu rendit sa révérence à Ivorin avec une grâce indolente. « Des paroles exagérées, protesta-t-il. Vos pauvres rivaux étaient presque défaits. Permettez-moi de vous présenter Ivorin de Kéan, intervint Edan. Ce jeune prud'homme a eu la courtoisie de se porter garant pour moi, il y a peu, et la vaillance d'affronter le fils du duc ce matin. Mais où avais-je la tête ? Se récria l'aventureux au masque noir. Voici bien sûr le chevalier mal assis. Joignez-vous donc à la fête, c'est un plaisir de vous avoir pour ami. Tout le plaisir et tout l'honneur sont pour moi, renchérit le bachelier. Sur mon initiative, le chevalier de Kéan a invité une certaine dame dans votre camp, précisa Edan. J'ai pris cette liberté, car si Rivorin et son ami appartiennent à deux parties hostiles, et il leur était difficile de se rencontrer. J'espère que Milouin a pu délivrer le message à la belle personne. Cela vous dit-il quelque chose ? Le chevalier au pis hocha du bec. « Je crois que la demoiselle est arrivée depuis un petit moment, » dit-il. Le visage d'Ivorin s'illumina. « La douce dame soit louée !» s'écria-t-il. « Où se trouve-t-elle ? Nous ne l'avons pas vue. »« Je vais vous mener à elle. Elle est conviée à un divertissement. » D'un geste obligeant, l'aventureux invita les deux chevaliers à le suivre. Le bachelier ne se fit pas prier, et perdu d'un bonheur que vint épicer une pointe de trac. Tout en marchant, il renouvela en bredouillant ses remerciements au sire de Vaumacel. Celui-ci les accepta de bonne grâce, tout en jugeant bon d'ajouter « Vous me pardonnerez ma discourtoisie, mais je m'abstiendrai de saluer la demoiselle. Puisqu'elle est la nièce de la baronne de Brégor, j'ai hélas la mort d'un de ses cousins sur la conscience. Ma présence serait par trop importune. » Cela risquerait de gâter vos entretiens. Au besoin, je vous autorise même à parler de moi en mal, si cela peut servir vos desseins. Ah, Sire Edan, vous êtes le plus prévenant des amis. Le chevalier Opi les guida dans un trajet assez court qui leur fit contourner les tentes. Devant eux retentissaient d'autres cris et d'autres rires mêlés à des grelots argentins. Dans un pré non loin de l'étang, quatre piquets reliés par une cordelette blanche délimitaient une aire peu étendue de la taille d'une courette. Une demi-douzaine de pages et la belle Héloïse s'y livraient à un délassement des plus singuliers. On aurait cru voir un jeu des barres ou un jeu de Colin Maillard pour insensés. Tous les enfants avaient les yeux bandés et cherchaient à l'aveuglette en agitant une clochette. Seule la demoiselle y voyait clair. Et ayant remonté ses robes assez haut sur de jolis mollets, esquivait les embardées et les chutes des garçonnets. Ivorin s'arrêta à ce spectacle, inexplicablement troublé. Il découvrait à l'impromptu une facette insoupçonnée de la dame de ses pensées. La jeune fille en détresse de la veille lui paraissait soudain évaporée. Héloïse se déplaçait à pas de loup, sautait et gambadait parfois pour échapper à une capture maladroite. Tout à son plaisir, elle ne vit pas arriver les nouveaux venus. Elle riait sans bruit, un peu essoufflée et un peu rouge. Elle respirait une insouciance enfantine. « À quoi s'amuse-t-il donc ? » s'enquit le chevalier de Kéan d'un air déconcerté. « Ce déduit est appelé le jeu des cœurs aveugles, ou des âmes sœurs, » renseigna aimablement le chevalier au pis. Et quelles en sont les règles ? Demanda Ivorin sans être certain d'apprécier la réponse. « Ceux qui ont les yeux bandés doivent prendre la belle aux appâts charmeurs. S'ils touchent un autre chasseur, les deux maladroits se trouvent éliminés. Sera déclaré vainqueur le premier à saisir l'objet convoité. Il obtiendra un baiser et la fierté de piquer les jalousies. Il peut aussi arriver que des galants aux façons peu dégourdies se prennent tous au collet. La victoire revient alors à la dame. Chacun des joueurs défait lui doit un gage pour publier sa flamme. Bien que les pages qui pourchassaient Éluise à l'aveuglette ne fussent que des enfants, le chevalier de Kéan ne put dissimuler un certain dépit. Il se garda d'en parler, conscient du ridicule auquel ce sentiment l'exposait, mais son expression n'échappa point à l'aventureux. « Allons, assez musardé !» badina celui-ci. « Je vais vous amener votre belle amie. »« Oh, laissez donc le jeu aller jusqu'à son terme, » répondit poliment Ivorin. « Mais j'y suis déterminé, » répliqua le chevalier au pis en riant sous cap. « Qui vous parle d'interrompre la partie ?» À ces mots, il s'approcha du jeu des cœurs aveugles. Ayant fait signe à Éluise, il posa l'index sur les lèvres pour l'inviter au silence, puis lui montra le chevalier de Kéan. L'heureuse surprise qui se peignit sur les traits de la jeune fille suffit à rendre le sourire au bachelier. Mais la damoiselle ainsi distraite faillit être capturée par un page. Elle se sauva d'un bond de cabri en lâchant un petit gloussement qui alerta tous les chasseurs. Le chevalier au pis vint à son secours de façon peu orthodoxe. Il releva la cordelette blanche pour lui permettre de sortir du pré et lâcha la clôture sitôt qu'elle fut passée. Encore portée par le plaisir de jouer, la demoiselle de Prangeray se précipita vers Ivorin. Avec un irréprochable sens des convenances, le chevalier de Vaumacel venait de s'éclipser. Les deux tourtereaux se retrouvèrent presque seuls. Essoufflés, les yeux brillants et un peu décoiffés, Éluise avait perdu en sublime ce qu'elle avait gagné en vitalité heureuse.
« Ah, enfin, mon preux chevalier !»
s'écria-t-elle sur un ton un peu coquin. Le jeune sire de Kéan en fut presque intimidé.
« Quand même, » balbutia-t-il assez sottement, « c'est un vilain tour de ne pas avertir ces petits valets que vous les avez abandonnés.
Mais une leçon utile, car l'amour aveugle expose aux déceptions, » plaisanta le chevalier au pis.
« De toute façon, aucun de ces polissons ne mérite autant que vous de m'attraper, »
assura la demoiselle de Prangeray. Et sitôt ces paroles prononcées, elle sauta au cou d'Ivorin, croisant les poignets derrière sa nuque, en lui posant au coin des lèvres un baiser encore chaud de la poursuite. L'aventureux s'inclina légèrement pour prendre congé.
« 10 000 tâches futiles me requièrent. Votre chaste discussion m'en distrairait trop longtemps. »
De la main, il leur indiqua un des petits pavillons circulaires.
« Si vous voulez philosopher à votre aise, prenez donc mon campement. »
Quittant les amants ainsi que les pages qui agitaient toujours leurs grelots à l'aveuglette, l'étrange personnage rejoignit le chevalier de Vaumacel qui s'était retiré un peu plus loin. Tandis qu'il s'éloignait d'un pas tranquille, Edan remercia le chevalier au pis pour la complaisance avec laquelle il s'était mis au service des tourtereaux.
« Quoi de plus charmant ?» rétorqua l'hôte.
« Il n'est rien qui me plaise plus qu'une jolie liaison, surtout lorsqu'elle est contrariée et secrète. Je goûte fort ses passions où l'on met en jeu son honneur et sa tête. »
« Le chevalier de Kéan n'est pas un ingrat. Je suis certain qu'il se considérera comme votre obligé. » Et que demain vous pourrez compter sur lui sur le pré. On vous propose en effet de rejoindre le conroi du seigneur Blancandin de Bromel. Ivorin de Kéan se rangera également sous sa bannière.
Le chevalier au pis esquissa une courbette ironique. Épaulé, le fils du duc, bel hommage à nos armes. Quelle dignité! Mais la faveur perd son suc, sachant des princes aux prises des deux côtés.
Le jeune Blancandin est un parti honorable. Il est certes désargenté et ne saurait vous récompenser par des largesses. Mais en avez-vous besoin? Je crois deviner que vous avez l'âme trop bien née pour vous soucier de pareilles considérations. En revanche,
Il peut vous offrir ce que vous cherchez. Un véritable défi, car le parti du dehors cherchera à toute force à l'abattre. Et puis aussi un noble caractère et une belle cause, car c'est la réputation de sa mère qu'il défend. Si vous le protégez avec le talent qui est le vôtre, la gloire que vous y gagnerez brillera sans doute jusque dans vos contrées. L'éclat de la renommée, moqua gentiment l'aventureux. Les deux causeurs firent quelques pas en silence au bord de l'étang. Dans la quiétude du soir, les libellules venaient tourbillonner autour d'eux. Des cris de déception éclatèrent du côté des pavillons. Les pages venaient de se rendre compte que la demoiselle leur avait fait faux bond. Cela fit rire le chevalier au pis. « Bande de nigauds ! Pas un seul pour tricher !» Puis reprenant son sérieux, il enchaîna à l'adresse des dames. « Vos idées sont avisées. Sans escrègne, méritent d'être assistées. Sa coterie nous dispense de belles occasions de nous illustrer. Allons-nous rompre des lances ? En nombre et à plein point, si vous m'en croyez. Vous avez notre promesse que nous accomplirons demain des hauts faits et de splendides prouesses. Pour autant, ne relâchons point notre guet face à d'occultes menaces. » Le chevalier de Vaumacelle le scruta avec un mélange d'intérêt et de perplexité. Son regard croisa derrière l'œilleton du masque une pupille d'ambre pailletée de quelques poussières d'or. « Que voulez-vous dire ?» demanda Edan. « Croyez-vous que des charmes fausseront la rencontre ?»« Peut-être. Ce n'est pas le plus inquiétant. » L'aventureux laissa planer un silence rêveur avant de poursuivre. « Nous avons perçu les traces subtiles de divers arts dans les deux camps. Ce sont quelques sortilèges vite ficelés dans le parti comtal, tandis que tombe une neige d'évocation sur le pavillon ducal. Mais c'est la magie vénielle. Flottent en revanche des miasmes nécrosés qui me transissent la moelle. Dans cette fête de dames et chevaliers bourgeonnent de vieilles peurs. Je les ai éprouvées en d'autres époques, marquées par de grands malheurs, courant le monde sous d'horribles défroques. Qu'entendez-vous par là? Je veux bien croire que le duc et le comte aient recours à quelques astrologues ou à quelques augures, mais vous semblez craindre quelque chose de sinistre. Pourtant, il me semble que Ganelon de Bromel, comme Anguzel de Quimarc, préfère recourir à des armes plus nobles que la sorcellerie.
Sans doute avez-vous raison, mais d'autres sont peut-être maléficiés. De troubles exhalaisons me ramènent à un funeste passé. Comme la vie est mal faite. Nous qui étions venus pour nous amuser.
Avec ou sans enchantement, le jeu de demain sera impétueux.
Eh oui,
cette belle fête nous paiera d'avoir si longtemps voyagé. Qu'importent les présages? En selle, lance au poing et mésaille baissée. Il sera temps d'être sage quand nous aurons follement croisé le fer. Et je vous mets au défi, à celui qui prend le captif le plus fier.
Le gentilhomme masqué posa toutefois une main élégante sur le bras d'Edan, avant d'ajouter sur un ton plus prudent, « Gardez quand même à l'esprit qu'il se trame des manigances obscures. Des pouvoirs sont convoqués. La dame des futaies est de l'aventure. Or, vous lui êtes lié. Les choses pourraient aller bien au-delà d'un tournoi de chevaliers. »
Avec la clairvoyance que lui conférait sa lignée et son expérience, celui qui se faisait appeler le chevalier au pis avait raison. La catastrophe se tramait, depuis longtemps en fait, avant même le procès intenté à la duchesse Odéarde. Le mal avait suppuré hors de son foyer originel. Il avait déjà frappé Louromagne et il commençait à infecter le duché de Bromel. Toutefois, il était encore faible dans les fiefs, sanctuaires et bonnes villes si entre le chevêchin et l'océan. Peut-être aurait-il été possible de le juguler. Peut-être eût-il suffi que Dom d'Aldouchin l'emportât sur Blancandin au cours des commensailles. En empêchant la tenue du tournoi, la victoire du grand bâtard eût permis au duc de rallier le banc de Quimarc,
et lui eût donné les moyens d'affronter le désastre qui menaçait. Le renfort d'Edan de Vaumacel et de son mystérieux compagnon en avait décidé autrement. Le chevalier Opi avait flairé la montée du péril, mais son intervention malencontreuse à Lindinas n'avait en définitive servi qu'à la conforter. L'ironie est d'autant plus cruelle à rapporter que cet oracle maladroit fut de mes très proches amis. Ce fut aussi le cas du chien fou qui se dissimulait sous les couleurs du jet. J'avais eu pour cet écervelé une réelle tendresse. Je sais du reste que tous deux me portaient dans leur cœur, du moins autant qu'il était possible à ces êtres insaisissables. Il m'est toujours difficile de conjecturer les raisons de leur errance si loin des cinq vallées. Comme la plupart des vagabonds de leur espèce, peut-être avaient-ils été chargés d'une quête par la haute reine ou par le consort. Avec le recul, il apparaît certain qu'il servait la dame des futaies bleues. Songeait-il seulement à s'acquitter de leur mission? Sans doute l'avait-il négligé pendant de longues périodes, au point de l'oublier ou peu s'en faut. Désormais, la plupart des belles gens ne s'écartent des cinq vallées que dans un état de fugue, et les raptes d'enfants, dont ces trois-là s'étaient rendus coupables, attestaient qu'ils traversaient une phase fantasque. Je veux croire malgré tout, non, j'en ai quasiment la certitude, que l'un des motifs de leur itinérance avait été de se lancer à ma recherche. Hélas, à cette époque, il leur aurait été difficile, sinon presque impossible, de me retrouver. Mon existence ne tenait alors qu'à un fil. J'ai senti des mois durant un souffle mortel faire frissonner mon âme. Je venais alors de franchir le seuil de cette grande demeure. Il serait plus juste de dire qu'on venait de m'y jeter. Le maître des lieux me séquestrait au fond des caves, dans les fers, en proie à un désespoir sans nom, au cœur de ténèbres impénétrables. Ma main tremble à ce seul souvenir. J'en ai le souffle court et presque des étourdissements. Ce n'est que bien plus tard que j'ai fini par réussir à dérober les clés du tortionnaire et que je l'ai enfermé à son tour dans les cachots où j'avais dépéri. Ce fut malheureusement sans l'aide des aventureux du bois Oiselet. Soit dit en passant, quel nom carnavalesque. Décidément, ils n'ont jamais été sérieux. Peut-être serait-il intéressant de retourner la question. À l'époque du pardon d'armes de l'immortel, à supposer que j'ai réussi à me libérer et à me rendre au tournoi, eussé-je été d'une aide quelconque aux aventureux? En partie. Ne fût-ce qu'en les incitant à la retenue et en secondant leur talent avec mon art. Cela eût-il suffi? J'en doute fort. Peut-être pour me rassurer, pour apaiser une conscience tourmentée par l'occasion perdue. Allons donc, soyons lucides, mes doutes sont fondés. Ma précédente tentative pour arrêter la corruption s'était soldée par un désastre. Aurais-je pu faire mieux à Lindinas, dans l'état où je me trouvais alors? Quoique circonscrit encore, le chancre rongeait déjà le duché. Le sanctuaire de Mondoir partait en fumée. Le bosquet de verre venait de retourner aux vieilles doctrines mortifères, et les apocrisières du mal ancien rôdaient déjà au milieu des camps chamarrés de Lindinas. Peut-être eût-il été possible d'en circonvenir quelques-uns et de retarder l'inévitable. Mais pour arrêter le fléau, il eût fallu une armée afin de marcher aussitôt à l'ennemi pour extirper l'abomination à la racine. Il eût fallu une armée aussi puissante que celle qu'avait voulu lever Ganelon de Bromel. Encore que ce fût pour d'autres desseins, cette armée même que la grande mêlée de Lindinas allait durablement affaiblir et diviser. Oui, il eût fallu que mes aventureux usassent de leur charme pour s'improviser médiateurs entre le comte et le duc, afin de les réconcilier avant le tournoi. Au lieu de cela, ces extravagants furent les premiers à se jeter dans la mêlée. Tous les trois, le haut seigneur Tigernède en tête.
celui-là même qui avait porté un titre princier à Tirluidial, qui avait nourri l'ambition d'être consort à Duirrigin, et qui, réduit à l'exil, avait choisi l'emblème du coucou par dérision. Sottise chevaleresque. Les uns étaient aveugles, les autres insouciants, et tous aussi fous les uns que les autres. Dans un sens, il est presque heureux que je n'aie pas été témoin des divagations de Lindinas. Cela n'aurait fait qu'ajouter stupeur et indignation à la désolation qui était mienne. C'est bien plus tard que j'ai appris les événements dont je fais la chronique dans ces pages. De nombreux récits, plus ou moins tronqués, partisans et contradictoires, ont circulé dans l'entourage de la duchesse Clarissima, dans les milieux lettrés et marchands de Carwell et de Longomore, avant de se trouver diffusés jusque dans les contrées voisines, au sein de la Marche Franche ou de la République de Tchoudalia. Quelques chansons fournissent également des bribes de renseignements, qu'il s'agisse des Cervantes mordants composés dans les camps des deux duchesses, ou des complaintes qui furent plus tard inspirées par les suites funestes du tournoi. J'ai cru reconnaître la fantaisie d'Anoët le Ménestrel dans certaines ballades plus frivoles, sans toutefois avoir la certitude que les paroles fussent toujours de ce témoin direct des événements. Plus singulier, un des acteurs du déclenchement de la guerre fait à présent partie de mes voisins, mais je me méfie de son témoignage, comme je me défie du personnage, ce qui explique que je l'ai peu sollicité jusqu'à ce jour. Je dispose pourtant d'une autre source, aussi improbable que précieuse, qui me permet d'avoir une connaissance précise des événements de Lindinas, quasiment comme si je les avais vécus. Au moment même où j'écris ces lignes, de façon assez malcommode pour dire la vérité, mon petit informateur réchauffe mon giron et ronronne sur mes genoux. Étrange vibrato d'ailleurs, étonnamment grave, parfois redoublé, sans cesse désaccordé. C'est probablement une séquelle de ces errances chronovagues. Mirabilis ne parvient plus à ronronner en mesure. Je me demande parfois avec un mélange de tristesse et d'angoisse depuis combien de temps le maroufle nous a quittés. Pourtant, le gros matou qui me réquisitionne en ce moment est on ne peut plus vivant et encombrant. Mais il vient du passé, ou peut-être du futur. En raison de son talent, sa finitude est devenue une contingence personnelle qui s'est désolidarisé de la temporalité commune. Il arrive que le chat qui revient me voir soit plus jeune qu'au cours de sa précédente visite. Je le devine à divers indices, des cicatrices qui ont disparu, sa curiosité devant un réaménagement qu'il connaît déjà, ou une belle fourrure hivernale au milieu de l'été. J'ai beaucoup de tendresse pour Mirabilis, et beaucoup de reconnaissance aussi. Lorsque j'ai enfin pris le dessus sur mon tourmenteur, volé ses clés et gagné l'appartement que j'occupe désormais, le chat vagabond fut le premier à me retrouver. Je n'ai qu'une idée générale de la façon dont il a remonté ma piste, et j'ignore toujours par quelle entrée il a réussi à se faufiler dans la demeure. Je verrouille tout le temps, il en va de mon salut. Et pourtant, un beau jour, il était là. Un peu efflanqué, certes, mais tranquillement occupé à faire sa toilette devant ma porte. Il cultive toujours des airs nonchalants, mais il est très conscient de l'exploit qu'il a accompli, et il en est très fier. Ce fut pour moi une joie inexprimable de retrouver ce vieux compagnon des temps heureux. Il en abuse, bien sûr, en faisant ses griffes sur mes meubles, en me prenant mon meilleur fauteuil, toute la place dans mon lit, ou en venant familièrement manger dans mon assiette. J'accepte avec joie toutes ces effronteries. Chacune de ces visites est pour moi un bonheur un peu miraculeux. Je sais que j'occupe une place de choix dans ce petit cœur inconstant. Alors, je lui passe tous ses caprices. Mes faiblesses sont pour lui autant dommages qu'il me rend au centuple par sa loyauté intemporelle. Il va sans dire que Mirabilis ne m'appartient pas. Il me suffit de représenter pour le matou ce havre vers lequel il revient toujours, après s'être lassé de ses conquêtes félines, humaines et elfiques. Peut-être se montre-t-il plus respectueux vis-à-vis de la dame des futaies bleues,
qu'il sert de loin en loin avec une certaine indolence. Je n'irai pas jusqu'à noter qu'il la craint, du moins condescend-il à reconnaître la puissance de son art. Peut-être la fréquente-t-il par nostalgie, certainement par intérêt. En tout cas, il ne lui appartient pas plus qu'à moi. Je me flatte même de croire qu'il me préfère à cette redoutable enchanteresse. Non que j'aie le charme ou le pouvoir de rivaliser avec cette magicienne. Il se trouve simplement, et assez tristement, que Mirabilis et moi sommes orphelins du même maître. Le gros chat en fut le familier pendant que je recevais son enseignement. Nous avons tous deux, chacun à notre façon, beaucoup aimé le sage brillant et bienveillant qui a fait de nous ce que nous sommes. Le lien qui nous unit, Mirabilis et moi, est donc entretissé de deuil, de mémoire et de réconfort. À travers notre amitié, l'initiateur magnifique se survit un peu. Nous y trouvons une consolation aussi douce qu'amère. Nous partageons nos rêves. Les chats sont très doués pour cela, autant que les elfes, et bien plus que les humains. Comme nous avons été formés à la même école, comme nous avons en commun certains souvenirs et certains chagrins, la superposition de nos émotions et de nos visions s'opère de façon naturelle, dans la continuité de notre affection mutuelle. Privé de l'amour enveloppant du maître, sans doute Mirabilis tend-il spontanément son esprit vers le mien pour retrouver une ombre de l'harmonie perdue. Il arrive parfois que nous communiquions de très loin, au mépris de la durée et de la distance. À l'impromptu, j'éprouve de temps à autre des frousses inexpliquées, des accès de paresse ou des envies bizarres de valériane, de mulot ou de soleil. Je gronde alors le chenapan dans le discours un peu follet que l'on tient à un ami imaginaire. En guise de réponse, je sens le matou sourire de toutes ses vibrisses au fond de ma songerie, avant de s'étirer d'un air satisfait. Il maintient le contact à des centaines de lieues ou à des années d'écart. À l'occasion, lorsque je sommeille ou que mon esprit vagabonde, je peux me couler dans son regard et ses sensations, sans savoir très bien quand ce que Mirabilis me montre a lieu, ce qui me rend visionnaire de façon très décousue, parfois de façon rétrospective et d'autres fois de façon prophétique. Quoi qu'il en soit, hormis le plaisir et parfois l'angoisse que j'ai à me fondre dans une musarderie de chat, la plupart de ces transes félines n'ont que peu d'intérêt. Maraude au ras des murs et des buissons, grignotage de longues herbes, affût en quête d'oiseaux ou de rongeurs, prudent contournement de porcs, chiens ou chevaux, larcins dans des celliers mal fermés, n'en déplaise à la vanité du matou, une grande partie de son existence est petitement rapineuse. L'exploration de son passé est plus facile à faire lorsqu'il me rend visite. Il suffit qu'il somnole comme il le fait en ce moment. En caressant sa tête ronde, je feuillette ses rêveries et ses songes. Notre proximité facilite l'oniromancie. Il faut bien sûr écarter toutes les fantaisies gourmandes, drôlatiques ou cruelles, qui batifolent derrière ses yeux doublement clos. Mais j'accède assez facilement à ce qu'il a vécu, et je peux me remémorer ses souvenirs comme s'ils étaient les miens. Il se trouve que la veille de la grande mêlée du pardon d'armes de l'immortel, Mirabilis vaguait à Lindinas. Il ne s'y était pas tout à fait rendu de son propre chef. On l'y avait convoqué en tant qu'éclaireur, et dans une certaine mesure en guise de héros. Cela n'empêchait pas le matou de prendre ses aises et d'interpréter assez librement les directives qu'il avait reçues. Grâce à nos rêveries communes, j'ai donc d'assez bons souvenirs du tournoi, quoiqu'un peu partiel et souvent au ras du sol. Ce qui me frappe d'abord, ce sont les effluves. Odeur d'écurie, de crottin et de fourrage. Relents de fausses d'aisance. Arômes appétissants des cuisines de plein air. Esprit de métal chaud autour des forges de campagne. Parfum plus subtil de l'herbe écrasée, de la toile humide ou des poudres de senteur. Ces souvenirs sont surtout nocturnes. Le matou semble avoir rôdé dans les campements bien après la minuit, quand les conrois avaient arrêté leur plan de bataille et quand les champions s'étaient retirés sous leurs tentes pour prendre du repos en prévision des combats. Il faut bien admettre qu'en dépit de sa curiosité et de la haute opinion qu'il se faisait de ses talents d'espion, Mirabilis passa à côté de beaucoup de choses, qui ne furent tirées au clair que bien plus tard. Certes, aux petites heures de la nuit, il croisa un rôdeur aux armes barbares et aux épaisses fourrures. Le gaillard lui déplut, il empestait le suin, le beurre rance et le chien, et le matou s'écarta prudemment de ce butor qu'il prit, à tort, pour un vulgaire mercenaire. L'aurait-il suivi? Sans doute aurait-il surpris l'entretien clandestin que Claudas de Quimarc eut avec un émissaire du clan Hartclyde. Redoutant la meute qui croquait des restes sous le pavillon ducal, le gros chat ne put y surprendre le retour furtif de la duchesse Clarissima. Il trotta également très au large d'un bivouac modeste, un peu isolé du camp du dehors, où trois ombres encapuchonnées veillaient autour d'un foyer froid. En revanche, intrigué par les murmures et les soupirs qu'il y entendit, l'indiscret se faufila sans gêne dans le pavillon du chevalier Hopi. L'intérieur de la tente était plongé dans une pénombre épaisse, à peine percée par le rougeoiement d'une brasière. C'était toutefois un éclairage tout à fait suffisant pour la pupille du maître chat, qui put contempler à loisir la musculature athlétique du chevalier de Kéan, ainsi que la belle chevelure de la demoiselle de Prangeray, épandue sur sa peau de lait. Le petit voyeur passa un moment à contempler leurs ébats, tranquillement assis aux premières loges. Toutefois, il finit par trouver désobligeant que les caresses, les regards ardents et les mots passionnés ne lui fussent point adressés. Il bâilla d'ennui et quitta la tente, non sans avoir marqué le rabat au passage. La nuit était profonde, les camps noirs et silencieux. L'heure froide qui précède l'aurore ne tarderait plus. Mirabilis huma l'atmosphère et prit l'air du temps. La foulée silencieuse d'une splendide prédatrice froissait les mystères de l'entremonde. Le matou estima que le moment était venu de remplir sa mission.